À désirer, j'ai hâte d'entendre ce que le Seigneur a mis sur ton cœur pour nous, pour moi. Et c'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous.
Bien, j'aimerais vous dire bonjour. Bonjour. Merci. Merci, Pasteur Michel, pour cette opportunité de partager avec l'Église ce que le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur. Et je sais que pour certains, on se connaît déjà. On se côtoie. Pour d'autres, peut-être qu'on se voit pour la première fois. Mais j'aimerais simplement vous dire que je suis des vôtres. Et merci encore. Mon épouse, elle n'était pas, on n'était pas sûr si elle devait être là ce matin, mais elle a tenu tout de même à m'accompagner. Alors, nous sommes une grande famille. Je suis marié. Ça fait 24 ans. Et nous avons 5 enfants. Alors, notre plus grand a 23 ans. Et notre dernière vient de célébrer ses 10 ans. Alors, c'est une grande famille que Dieu a bénie. Et j'aime toujours dire que j'ai une église tout entière. Et d'ailleurs, c'est avec cette famille que nous venons encore de commencer une nouvelle œuvre, une nouvelle église, comme le pasteur a dit, l'église Alliance chrétienne de Montréal. Nous réunissons en ce moment à ETM IBV, où nous avons une salle de classe qui nous permet donc de célébrer le Seigneur. Le ministère d'implantation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est vrai que à chaque fois, je dis toujours au Seigneur, je ne veux plus reprendre. Mais je réalise que ça brûle tellement en moi que je me retrouve toujours dans ce ministère. Je vais être à ma 8e implantation. Et ici à Montréal, c'est la 2e. La première implantation que j'ai faite, je l'ai commencée en 2002 avec l'Armée du Salut au centre-ville de Montréal. À l'époque, ça s'appelait l'Église de la Résurrection. Une fois après, on a déménagé parce que l'église de Pinot, l'Armée du Salut, était en train de fermer. Et nous, au centre-ville, on louait un bâtiment. On a dit, bon, alors, ça tombait bien. Donc, on s'est déplacé pour récupérer le bâtiment qui est à Saint-Michel. Et donc, l'église aujourd'hui s'appelle CCC, le Centre culturel chrétien. Je suis l'implanteur de cette église. Et donc, c'est un retour à Montréal pour implanter cette église d'Alliance chrétienne et missionnaire. Il faut dire que c'est ce que j'aurais pu faire depuis le début. Je suis à ma 14e année. Et je crois sincèrement que ce que nous faisons, c'est réellement ce que le Seigneur a bien voulu que l'on fasse en venant ici au Canada. Quand je pense à l'Alliance chrétienne ici, j'aime dire aux gens que l'Alliance, c'est non seulement mon église, mais c'est ma mère. Parce que contrairement à beaucoup de gens, moi je n'ai pas eu la grâce de vivre dans un foyer normal, où le père et la mère étaient là. Mon père et ma mère ont divorcé, j'avais 5 ans. Et donc, c'est l'Église qui m'a recueilli. Il n'y avait pas un individu particulier, mais c'était une communauté qui m'a recueilli. Et donc, l'Église de l'Alliance, c'est ma mère. Le lien, la relation que j'ai avec cette Église, c'est un peu celle que tu as avec ta propre mère dans la chair. Et donc, c'est pour ça que quand je dors, quand je pense, quand je fais quoi que ce soit, je pense généralement en termes d'Alliance chrétienne et missionnaire. Je ne vois pas spécifiquement une église locale. Je vois l'ensemble de cette église. Et c'est pour cette raison que lorsque nous voyons ce que Dieu fait ici au Québec, ça fait 85 ans que l'Alliance chrétienne est ici. Et 85 ans, je me dis, Seigneur, c'est intéressant. Ça fait en principe 2 générations de 40 ans. On est en train de commencer la 3e génération. Et quand je vois ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette prochaine génération? Il y a déjà 5 ans qu'on a commencé à gruger. Il nous reste 35 ans pour faire une génération complète. Vous savez, en 85 ans, nous sommes encore une jeune église. Une église qui a besoin du soutien de l'extérieur pour marcher. Et moi, en tant que membre de cette famille, je peux vous dire que je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Je dis le Dieu qui travaille dans d'autres régions du Canada, dans d'autres régions du monde, est le même qui travaille dans le guide de l'Alliance au Québec. Je ne peux pas comprendre qu'il n'y ait pas de provision pour nous au Québec. Et vous savez, cette réflexion m'a mené à parler particulièrement au directeur du district pour dire, je veux que tu me libères. Parce qu'étant dans l'Est, le directeur n'était pas chaud, il n'était pas prêt à me laisser quitter l'Est pour venir ici. Et pendant 2 ans, j'ai parlé à son oreille, j'ai parlé à son cœur pour dire, je crois que Dieu m'appelle. Et je crois que c'est le moment que tu puisses accepter que je vienne à Montréal commencer une nouvelle œuvre. La ville de Montréal, pour moi, est stratégique. Je ne vous apprends pas savoir que beaucoup d'expériences idéologiques se font d'abord ici, à Montréal, avant qu'elles ne soient vécues ailleurs. En 2003, j'étais en train de marcher au port de Montréal, au vieux port, donc au vieux Montréal, comme on dit. Et là, j'ai rencontré un monsieur. Et là, il s'est dit que j'étais effectivement nouvellement arrivé, donc il va commencer à me parler de Montréal, à me présenter Montréal. Et il va mettre un accent particulier sur la communauté gay. Il dit, Montréal, c'est la deuxième ville, en ce temps-là, il va me la présenter comme étant la deuxième ville homosexuelle en Amérique du Nord. Et il m'a vanté tous les bienfaits de cette famille gay à Montréal. Et que bon, en ce temps-là, ils étaient en compétition avec Chicago. Parce que Chicago ne voulait pas trop laisser sa place. Mais Montréal voulait également s'affirmer. Et là, donc, dans la conversation, j'ai voulu un peu en savoir un peu plus. Pourquoi il était si fier d'avoir une ville gay en Amérique du Nord? Et bien sûr, il m'a donné ses raisons. Il croyait fermement que l'avenir du Canada passait par Montréal et passait par la communauté gay. Et il croyait fermement que la communauté gay de Montréal avait un appel particulier pour pouvoir toucher le monde. Et vous savez, la passion de cet homme, même si idéologiquement je n'ai rien à voir avec ça, mais sa passion pour tenter de me convaincre m'a vraiment touché. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que j'ai autant d'énergie, autant d'amour pour parler de toi comme ce monsieur est en train de me parler de son idéologie, de ce qu'il croit être bon pour Montréal et pour le monde. Alors donc voilà, depuis ce temps, je me suis mis donc à me questionner sur mon engagement en tant que chrétien, sur mon engagement en tant que serviteur de Dieu. Et bien entendu, mon église au Gabon, cette église, je porte un peu la chemise ici pour que vous poussiez, j'aime bien garder ce lien, c'est une église qui a eu du mal à me libérer pour venir au Canada. Et en fait, quand je suis venu au Canada, c'était avec un mandat précis. Je venais pour pouvoir comprendre le contexte dans lequel était formée une bonne partie de l'élite gabonaise. Et donc, dans le choix, j'étais soit prévu aller aux États-Unis, venir au Canada ou aller en Suisse. C'était les 3 choix. On voulait comprendre la mentalité, l'idéologie qui animait nos intellectuels. Et donc, face à ça, au dernier moment, c'est Laurie McLean qui m'a donc conseillé le Canada, et je suis donc venu avec ma famille. Et bien sûr, on est allé à Québec, où j'ai pris quelques cours au niveau de l'Université Laval. Mais l'objectif, c'était de comprendre pourquoi l'élite gabonaise pensait d'une certaine façon. Et notre objectif, dans mon église, où j'étais le pasteur local, c'est-à-dire la plus grande église de l'Alliance au Gabon, avec 3000 membres, nous étions en train de développer un programme où on voulait atteindre l'élite. On voulait avoir un impact dans la communauté dirigeante du pays. Et tout était bien organisé pour que nous puissions atteindre ce but. Et donc, quand je suis venu ici, c'est ici que le Seigneur va changer mes plans. Et donc, l'Église a eu beaucoup de mal à me libérer. Il a fallu beaucoup de négociations pour amener l'Église à comprendre pourquoi c'était nécessaire et utile que je puisse rester ici. Nous sommes restés, ma famille et moi, avec cet objectif d'aider notre famille d'Église à croître et de notre famille d'Église à prendre sa place. Et c'est dans ça que je veux nous parler aujourd'hui. Pourquoi donc cette nouvelle Église de l'Alliance chrétienne des missionnaires de Montréal? Nous partons du constat que depuis les années 70, il y a eu un réveil au Québec. Et plusieurs d'entre vous, vous avez certainement rencontré Christ pendant cette période. Et donc, ça fait du bien à l'Église. Ça fait du bien de voir le résultat de ce réveil encore aujourd'hui à l'Église. Mais nous constatons malheureusement que les enfants de cette première génération ne suivent pas toujours leurs parents dans la foi. Et donc, il y a une cassure, il y a une fissure dans cette transmission de la foi. Et nous voyons que si cela continue, qu'on le veuille ou non, l'Église va avoir du mal à croître. Si nos enfants ne prennent pas le relais de la foi, l'Église va continuer malheureusement à patiner, à s'embourber, et le décollage va être beaucoup plus difficile. Et donc on s'est dit, nous voulons toucher cette génération d'enfants issus des familles chrétiennes, issus du réveil, qui ont grandi dans l'Église, qui connaissent le Seigneur, mais qui, tout simplement, pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent, ont rejeté le Seigneur. Deuxièmement, nous constatons qu'il y a de plus en plus, n'est-ce pas, l'immigration. L'immigration est là en permanence et le Québec, Montréal particulièrement, reçoit beaucoup d'immigrants. Et ces premiers immigrants, en général, sont toujours des croyants. Et malheureusement, on réalise que là aussi, à un moment ou un autre, leurs enfants n'arrivent pas toujours à suivre la foi des parents. Et donc, la transmission ou la continuation de la foi s'arrête quelque part. Et nous sommes dit, en tant qu'Église, il n'est pas normal que l'on puisse laisser nos enfants s'évader de l'Église en ne faisant rien. Cette impuissance, malheureusement, je ne pense pas qu'elle vient du Seigneur. L'ennemi est en train de nous endormir. Et lorsque les immigrants arrivent ici, écoutez, leur première raison d'être, c'est la survie. Ils doivent chercher à s'occuper parce qu'ils n'ont rien, donc il faut qu'ils mangent. Et dans ça, malheureusement, ils n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants. Et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et cherchent à se définir eux-mêmes dans cette nouvelle société. Nous pensons que l'Église peut répondre favorablement à ce besoin. L'Église peut être une mère pour ces jeunes immigrants. Mais ensuite, nous voyons également que le modèle de la révolution tranquille aujourd'hui est en train de s'effondrer. Et cet effondrement, pour moi personnellement, je pense que cela est dû au fait que une idéologie tient pour une génération, tient pendant 40 ans. Et à chaque 40 ans, on voit une remise en cause, quelle que soit la société. Il y a une remise en cause idéologique, il y a une remise en cause du système, du modèle qui a façonné la société. Et au Québec aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Rien qu'à voir nos routes, rien qu'à voir nos bâtiments, on se rend compte que tout s'effondre. Et on voit le système de santé, par exemple. On est en train de le remettre en cause, on pense qu'il faut chercher à le sauver. Et ce, c'est parce qu'effectivement, nous arrivons à la fin d'une génération. Et donc, nous pensons qu'il est temps pour l'Alliance chrétienne de saisir cette occasion, saisir cette opportunité. Nous sommes en train de commencer une nouvelle génération. Si nous manquons cette opportunité, nous allons attendre encore 40 autres années et nous serons pratiquement à 120 ans de retard sur notre société. Et cette situation, personnellement, je dis non. Pendant ce temps que le Seigneur m'accorde, je veux être participant de la construction de cette itinérance chrétienne et missionnaire au Québec. Je veux donc vous amener avec moi dans cette aventure. S'il vous plaît, on va lire très rapidement, je ne prêche pas ce matin, je suis venu parler simplement de cette implantation, mais on va lire tout de même le texte de Actes 13. Acte 13, le verset 1 au verset 3. Acte 13, verset 1 au verset 3. Est-ce que pasteur? C'est bien l'heure, hein? L'heure qui est là derrière?
Oui.
Ah, d'accord. Merci. Il y avait dans l'église qui était Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La mise à part de Barnabas et Saul. Vous savez, quand je vois cette histoire, je dis, Dieu ne travaille pas comme nous les hommes. Heureusement d'ailleurs. Cette église d'Antioche, c'est une église qui a été implantée par des réfugiés. C'est des gens qui fuyaient la persécution à Jérusalem. Et donc, dans leur fuite, ils ont compris également qu'ils ne pouvaient pas rester sans continuer à célébrer leur Dieu, sans continuer à adorer leur Dieu. Ils arrivent donc à Antioche, ils vont commencer à parler de Jésus à ceux qui étaient là. Et cette église de réfugiés, comme dans toute église de réfugiés, il y a des besoins. Nous voyons que dans cette église, il va y avoir notamment un besoin d'enseignement. Parce que pour beaucoup d'entre eux, quand ils ont fui Jérusalem, ce n'étaient pas des apôtres, ce n'étaient pas les diacres, ce n'étaient pas les leaders de l'église. C'étaient des gens, tout simplement, qui venaient de rencontrer le Seigneur, qui étaient passionnés pour le Seigneur, et ces jeunes avaient besoin d'être encadrés spirituellement pour renforcer leur foi. Voilà un besoin qui était dans cette église. Nous voyons également que dans cette église d'Antioche, il va y avoir des besoins spirituels causés par des blessures de la persécution. Certainement, beaucoup d'entre eux avaient perdu des amis, peut-être de la parenté. Beaucoup d'entre eux avaient peut-être été avec des blessures physiques, parce qu'ils ont été arrêtés, fouettés, probablement. Et donc, il y a eu des blessures psychologiques. C'est une église qu'on peut dire qui était malade. Elle n'était pas en bonne santé physique, si vous voulez. Et donc, elle va se retrouver là. Il va avoir donc un besoin de consolation. Il va avoir un besoin d'une présence pastorale. Mais c'est intéressant de savoir que malgré ces besoins si immenses, si intenses, si réels, ces jeunes chrétiens vont être saisis de l'amour de Dieu et ils vont chercher à partager cet amour aux autres. Des malades qui implantent une église, et on peut dire une église des malades. Et c'est dans ça que le bruit va parvenir à Jérusalem. Pour dire, il y a une église qui est là. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ils vont envoyer Barnabas, qui lui va arriver et il va constater ce qui était là. Il va donc chercher à pallier à ses besoins. C'est ainsi qu'il va prendre Saul de Tarse et ensemble, ils vont bâtir cette église. Ils vont essayer donc d'amener cette église, l'amener à la maturité. Mais nous voyons également que dans cette église, et c'est étonnant, parce que voyez-vous, moi-même j'ai été participant de ce genre de message, pour dire que dans une église, pour que l'église soit en bonne santé, on a besoin d'avoir les cinq ministères d'Éphésiens. Mais ici, ce que nous voyons, écoutez bien le verset 1, il y avait dans l'église qui était Antioche des prophètes et des docteurs. Point. Deux ministères que les écritures nous relèvent ici pour Antioche. Le ministère de prophétie et le ministère d'enseignement. Et pourtant, on va dire, mais voyons, ils évangélisaient puisque le monde venait. Mais ici, dans les écritures, le Saint-Esprit ne voit pas l'utilité de parler du ministère de l'évangélisation. Parce que ces chrétiens-là ne se définissaient pas comme évangélistes. C'étaient des témoins. Partager sa foi aux autres, c'est ce qui est requis pour tout enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de ce ministère d'évangéliste, je n'ai pas besoin d'un type d'évangéliste pour partager ma foi aux autres. Et donc, pour le Saint-Esprit, ce ministère d'évangélisation n'y était pas. Chaque chrétien était un témoin. Mais pourquoi on parle spécifiquement du ministère d'enseignement et de prophétie? Si vous constatez, si vous remarquez la vie de Barnabas, dans Actes 4, on nous dit que Barnabas, son vrai nom, c'est Joseph. Il va devenir donc, n'est-ce pas, Barnabas, le fils de l'exhortation. Et donc, dans ce ministère d'exhortation, voyez un peu ce besoin de cette église, cette jeune église. Une église qui a besoin d'être encouragée. Il fallait un prophète. Et donc, le ministère d'exhortation que Barnabas va exercer, le ministère de compassion, le ministère de consolation, c'est ce que le Saint-Esprit reconnaît ici comme étant un ministère prophétique. Barnabas va donc imprégner cette église d'Antioche par ce ministère prophétique. La consolation, l'exhortation, la compassion, comme on l'appelle dans l'Alliance chrétienne aujourd'hui. Cette église avait besoin pour pouvoir se relever, pour pouvoir marcher avec Dieu. Mais on parle du ministère d'enseignement. Nous savons que Paul, le grand Paul, en ce temps, il s'appelle Saul, il n'est pas encore connu en tant que tel. Mais il a une formation bien requise pour pouvoir poser les fondements de la foi dans la vie de chaque nouveau croyant. Et lui-même n'est pas si vieux dans la foi. Et donc, quoi de mieux que de pouvoir aider cette jeune église à arriver à la maturité? Et donc, ce qu'on met ici en avant-plan, ce sont donc les deux ministères de ces deux hommes. Le ministère de l'enseignement et le ministère de la prophétie. Je veux nous amener à comprendre que cette église a été marquée par l'ADN de Paul et Barnabas. Ce sont eux donc qui vont façonner cette église. Et ils vont amener cette église à penser comme Dieu le voulait en ce temps-là et dans ces lieux particulièrement. Mais pendant que cette église se reposait sur Paul et Barnabas, qu'est-ce que nous voyons Dieu faire? Dieu vient chambouler les plans de cette église. Dieu vient troubler les plans de cette église. Dieu vient sortir cette église de sa zone de confort. Il décide de prendre les deux leaders clés de l'église pour dire, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour le ministère à laquelle je les ai appelés. Écoutez là, si on vient vous prendre votre comité d'anciens ici et votre pasteur, On dit, on va les envoyer ailleurs. Je vous dis, beaucoup d'entre nous ici, on va déserter l'Église. On vient donc prendre les piliers de l'Église pour dire qu'ils doivent continuer le ministère pour lequel je les ai appelés. Il fallait être une Église sensible à la voix de Dieu, une Église obéissante à la voix de Dieu, pour pouvoir reconnaître que ça c'est Dieu qui a parlé. On aurait pu dire, non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas normal que l'on prenne notre pasteur. Ce n'est pas normal que l'on prenne nos enseignants. Ce n'est pas normal qu'on prenne nos leaders pour les envoyer. Ça, c'est Satan qui a parlé. Mais ici, ils ont reconnu que c'est le Saint-Esprit qui parlait pour le bien de l'Église. Et l'Église va accepter volontiers de prendre Paul et Barnabas, de les recommander afin qu'ils puissent continuer le ministère. Vous savez, je pense que pour Paul, par exemple, écoutez, jusqu'ici, il n'est pas reconnu comme apôtre. Or, tous les apôtres sont à Jérusalem. Je crois que le désir de Paul aurait été d'être envoyé d'abord à Jérusalem pour qu'il puisse être reconnu officiellement comme apôtre et qu'il puisse alors entreprendre un ministère de grande envergure. Plutôt que ça, le Seigneur va l'éloigner davantage de Jérusalem. Et il va demeurer plus ou moins un apôtre anonyme à Jérusalem. Il n'a pas eu la notoriété de Pierre à Jérusalem comme il aurait certainement souhaité. Et c'est plus tard que Paul va comprendre que Dieu l'appelait à être plutôt l'apôtre des païens, l'apôtre des gentils, et non pas l'apôtre des juifs. Pierre assumait parfaitement déjà ce rôle. Imaginez un peu Barnabas. Il a été envoyé par l'église de Jérusalem. Ça aurait été mieux qu'il fasse d'abord un demi-tour à Jérusalem. Le Seigneur, au lieu de vouloir qu'il revienne en arrière, il va dire, Barnabas, tu as déjà été libéré par l'église de Jérusalem, continue le chemin. Continue le ministère. Et ils vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Le Seigneur, quand il veut bâtir quelque chose de solide et durable, il vient nous désorganiser. Et l'Église n'aime pas être désorganisée. On veut que les choses aillent dans l'ordre. Merci, pasteur.
Il y a une récompense. Hein?
L'Église d'Antioche a connu cette période de trouble. Mais quand le Saint-Esprit vient nous checker, quand il vient nous troubler, il sait comment poser les fondements les plus solides de son œuvre. Et il a fait avec Antioche. Et il va continuer à le faire avec cette église d'Oasis. Bien-aimés, l'Église de l'Ère chrétienne et missionnaire de Montréal que nous implantons, c'est une église que j'envisionne d'être une église mère ici au Québec. On parle aujourd'hui en termes de famille d'église de l'Alliance chrétienne. C'est bien beau. Mais je peux vous dire que sur le plan pratique, je vois plutôt l'église de l'Alliance chrétienne au Québec qui vivent et qui fonctionnent indépendamment des autres. C'est à peine que dans nos églises, on va parler d'une autre église à côté. Je viens dans l'Est, c'était à peine que je pouvais arriver à convaincre mes membres du comité pour dire, je ne veux pas qu'on se focalise sur soi-même, sur nous. L'œuvre de l'Alliance chrétienne au Québec est grande. Je voulais qu'on voie Montréal. Je voulais qu'on voie Saguenay. Je voulais qu'on voie Gatineau. Je voulais qu'on voie tout le Québec. Mais c'était assez compliqué et difficile. Et pourtant, notre concept, c'est que nous sommes une famille d'église. Je dis, où est ce lien familial? Je ne sais pas quelle est la place que tu as, l'église de Matane, dans ton cœur ce matin.
Quelle est la place que tu as pour l'église de Saguenay? L'église de Gatineau, qui est juste là à côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'église chinoise a une place dans ton cœur. Elle n'est pas loin d'ici. Je veux qu'on puisse changer notre façon de voir l'église du Seigneur. Vous savez, je dis, en même temps, je dis, nous sommes une famille d'église. Je dis, mais où est notre mère? Où est l'église mère? Vous savez, je reçois à chaque fois les lettres de IBV, les lettres du district. Je dis, vous savez, il y a certaines demandes que je vois qui pouvaient être réglées en un clin d'œil par une église locale. Mais parce qu'on se déresponsabilise, on n'arrive pas du tout à saisir clairement quelle est la volonté de Dieu pour son œuvre dans l'Alliance chrétienne au Québec. Moi, je crois pour ma part que Oasis a une responsabilité énorme devant le Seigneur et devant l'Alliance au Québec pour changer les choses. Je crois pour ma part qu'on ne peut pas être une famille d'église sans qu'il y ait soit une église mère ou une église aînée qui prend le leadership pour entraîner les autres. Je ne pense pas. Dans toute famille, il y a toujours un leader. Qui est l'église leader dans l'Alliance chrétienne au Québec? Tout le monde s'efface. Tout le monde refuse de prendre sa responsabilité. Tout le monde dans son petit coin. Et on se plaint de ce que l'œuvre n'avance pas. Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne prend pas notre place. Je veux que l'église change. Je viens ici, vous. Je disais que je ne prêchais pas. Je voulais simplement répandre mon cœur. Pour dire, frères et sœurs, il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on libère ce ministère que Dieu a mis en nous. Il est temps que l'on soutienne notre Église. Je ne pense pas qu'Alberta doit continuer à être bénie de cette façon si nous, on prend notre place. Je disais à Francis la dernière fois, on était en train de parler de notre Église. Il fallait encore que je fasse une lettre pour Alberta. Je n'ai même pas encore fait la lettre. Je dis, Seigneur, celui qui donne, c'est celui qui est béni. Pourquoi je dois toujours continuer à tendre ma main en Alberta? J'ai dit à Francis, je me sacrifie. Je me sacrifie. Je veux, si possible, insuffler un nouveau souffle. Je fais ce ministère sans salaire. J'ai une famille à nourrir. Mais je crois que Dieu ne va pas m'abandonner pour autant. J'aimerais dire à l'Église, dans quelques années, que voici ce que Dieu a fait pour nous. Sans salaire, mais Dieu a béni le travail. Et je crois que dans cette Église, il y a quelqu'un que Dieu touche pour soutenir cette œuvre. Et non pas quelqu'un d'Alberta. Je crois qu'il y a quelqu'un que Dieu est en train de préparer ici pour soutenir cette implantation. J'ai mis ça en stand-by, j'ai dit à Francis, je penserai à Alberta plus tard. Je veux d'abord penser à Dieu et à l'Alliance au Québec, parce que nous sommes capables. Dites amen.
Amen.
Nous avons les ressources. Nous avons les moyens. Oui, on va me dire qu'on n'est pas si nombreux, c'est vrai. C'est vrai. On n'est pas si nombreux. Mais cette église d'Antioche n'était pas aussi une grande église comme à Jérusalem. Et pourtant, ils ont envoyé des missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre. Et pourtant, ils ont soutenu le ministère. Et Dieu a béni le travail qu'ils ont fait. Ce travail est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Nous pouvons ensemble changer la destinée de l'Alliance à Montréal et au Québec. Nous pouvons changer. Frères et sœurs, faisons souffler l'Église anglophone, l'Église de l'Ouest. Faisons-la souffler. Donnons de la joie à cette Église. Moi, quand je suis avec mes amis dans les réunions, quand on parle du Québec, il y a toujours un peu cet essoufflement. Il y a une vie. Il y a une sœur de Saskatchewan qui m'a dit ceci. Et il désirait,
on est fatigué de soutenir le Québec. Elle a eu le courage de me sortir cette phrase. On est fatigué de soutenir le Québec. Je dis, je te comprends. Est-ce que ces paroles nous touchent? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me touche. Je sais que peut-être d'aucuns d'entre vous, vous allez me voir simplement comme un immigrant, mais je ne me considère pas immigrant dans l'Alliance chrétienne et missionnaire. Je suis de la famille et je suis fondamentalement membre de cette Église. Je veux que mon Église au Québec puisse parvenir à la maturité. C'est le désir de mon cœur. Et si ce matin on peut commencer un partenariat, je ne serais que heureux dans ce partenariat. Peu importe le degré de ce partenariat que tu peux mettre avec nous dans cette implantation. Tu peux commencer simplement à prier. Tu peux t'impliquer toi-même directement. Tu peux recommander quelqu'un. Vous savez, c'est que le pasteur de l'église haïtienne a fait. Lui-même ne s'est pas impliqué. Il a vu un jeune homme qui aime le Seigneur, qui prend des cours à IBV et qui n'a pas d'église fixe. Et il s'est dit, pourquoi pas? Il dit, je vais te mettre en contact avec lui. Si ça clique, eh bien, il pourra faire partie de ton équipe. Eh bien, ça a été notre première famille qui s'est jointe à l'église, après bien sûr la nôtre, c'est la famille Bertoli. J'ai rencontré la famille Bertoli et sa femme, bien sûr, ils ont deux petits-enfants, et je leur ai présenté la vision, et en ce moment, ils sont allés prier pendant 3 semaines, ils sont revenus pour dire, nous croyons que c'est que le Seigneur veut pour nous. Ils se sont joints, et avec eux, nous avons commencé à implanter cette église. Il se pourrait que tu connaisses quelqu'un qui a été dans cette église, qui est parti parce qu'il ne se sentait pas bien, peut-être que dans cette nouvelle implantation, il pourra trouver sa place. Eh bien, mettez-le en contact avec nous. C'est pour ça que tu connaisses quelqu'un d'autre qui cherche une église dans cette ville de Montréal, qui veut travailler pour le Seigneur. Et c'est peut-être une occasion. Alors, mettez-le en contact avec nous. Mais vous pouvez également venir simplement nous visiter, nous soutenir, nous encourager, votre présence fera certainement la différence. La mise à part de Barnabas et Paul. Ces deux hommes ont compris que leur avenir dépendait du Seigneur d'une part, mais dépendait aussi de l'avenir de l'Église. Ils ne dissociaient pas leur bonheur de celui de l'Église. Ils ont consacré leur vie à Dieu et pour le corps de Christ. Malgré tout ce qu'ils avaient déjà fait, malgré l'attachement qu'ils avaient pour l'église d'Antioche, malgré le fait que leur ministère prospérait à Antioche, ils ont compris que pour qu'Antioche continue à grandir, continue à être une église solide, il fallait qu'ils acceptent d'obéir au Seigneur et de continuer à aller implanter des églises partout où le Seigneur les envoyait. Oasis peut grandir en se multipliant, en acceptant de se multiplier et d'implanter d'église dans Montréal et dans le Québec. Que Dieu bénisse ta parole.
Il dit qu'il ne prêchait pas ce matin. Hein? Alors, on se met tous ensemble et puis on va prier que ces paroles-là, ça ne tombe pas dans le vide, mais que vraiment que ça tombe dans nos cœurs et qu'il y ait une suite à ce qu'on a entendu ce matin. Seigneur, merci pour la visite de notre frère, pasteur Désiré, ce matin, qui vraiment est venu nous souffler sur nous, Seigneur, un bon vent qui vient de toi, qui nous ouvre des portes, Seigneur Dieu, sur notre Église enfermée peut-être trop. Seigneur, oui, on répond, on est d'accord pour être partenaire avec cette implantation-là de tout notre cœur. Et maintenant, Seigneur, ce sera notre Église sœur et on veut y participer de toutes les façons possibles. Mets ta main sur désirer, Seigneur Dieu, sa famille, que ce souffle-là, Seigneur, ne s'éteigne pas, mais qu'au contraire, ça se répande partout, dans nos églises et dans la région de Montréal, en particulier sur le Québec. Merci encore, Seigneur, de nous l'avoir prêté, de nous avoir envoyé du Gabon, Seigneur. C'est vraiment un cadeau qui vient du ciel et on l'apprécie énormément. Merci encore, Seigneur, pour sa présence ce matin et le bon effet qu'il a fait dans mon cœur et dans nos cœurs. Amen.